Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Rock & Page, Marie-Pierre Soriano aux commandes de votre magazine littéraire et musical. Chaque semaine et pendant 30 minutes, je partage avec vous mon engouement pour la lecture et la musique, romans, bandes dessinées, albums jeunesse, pas de cloison dans les genres pour y arriver du mieux que je peux. Je chronique un ouvrage, interview son auteur quand c'est possible et puis, et tout est là, je vous propose une playlist par ouvrage. Quel titre de musique pour vous dire une écriture? Quel autre titre pour vous restituer un rythme? Vous avez compris le principe, j'en suis certaine. Au sommaire de ce numéro, un roman sorti tout récemment chez POL, signé Célia Oudard et qui s'intitule « Tout un monde lointain ». Un roman somptueux, une langue, surtout une musique et une fiction, une vraie, qui entraîne tout à la fois le lecteur subjugué et flottant au cœur de la Côte d'Azur, au cœur des failles d'une vieille dame, au centre d'un certain milieu aussi, puis de deux milieux, bref. Une merveille cette lecture. Avant de vous en dire un peu plus et surtout avant de recevoir Célia Oudard au micro de Rock & Page, oh joie et fierté, écoutez plutôt à quel point ce roman a des effets puissants et longs après sa lecture, marque absolue de sa grande réussite.
Send the dark underneath.
C'était The Rip de Portishead, oui, pour vous dire toute la puissance du dernier roman de Celia Woodard, pour vous dire au plus près cet effet d'écriture qui reste, de récit que l'on porte bien après avoir refermé le livre et qui, par les temps qui courent, est si rare à trouver. Pour moi, c'est la trace absolue de l'existence d'une langue. Pour ce qui est de la petite histoire de tout un monde lointain, le roman s'ouvre sur une scène qui fera désormais partie des grandes scènes qui m'auront marqué pour toujours. Une enfant fait ses premiers pas et nous sommes sur les rives du lac Majeur au printemps 1918, et Woodard nous permet cette magie folle, c'est de tout ressentir: l'herbe, la texture de la peau de l'enfant, la lumière, l'odeur de l'homme qui l'accompagne dans cette folle entreprise. Bref, une folie pure de merveille et de justesse. Cette scène ne nous mènera pourtant nulle part dans un premier temps, et là où elle nous emmènera, ça, on le découvrira à la toute fin du roman. Le ton est donné, le là posé, il va falloir lâcher tout pour rentrer dans le récit. Le chapitre suivant, une femme conduit dans la nuit, elle s'arrête pour se recoiffer. La chaleur de la nuit sur la Côte d'Azur l'enveloppe tout entière et nous avec. Cette femme, c'est Gréco, une vieille dame qui a été designer, mais elle préfère dire ensemblière. Ayant connu le succès dans sa vie professionnelle, elle est veuve, à la retraite. Elle vit dans une maison somptueuse à Roquebrune-Cap-Martin sur la Côte d'Azur. Elle est magnifique de dignité dans sa fragilité. On sent qu'elle a fabriqué des cloisons très belles et très dignes, très serrées, pour cacher les failles qui l'habitent et la constituent, les fantômes aussi. Elle marche tous les matins jusqu'à la villa E1027, qui la subjugue, qui la fascine, qui la hante aussi, et qu'elle souhaite acquérir par tous les moyens. Cette villa a été fabriquée dans les années 20 par la designer irlandaise Helen Gray et Jean Badovici. Ils y vécurent ensemble. Gréco fut l'ami de son dernier propriétaire, assassiné dans des circonstances plus que troubles. Elle se nourrit, Gréco, de quelques fruits, s'astreint à une vie très cadrée, presque rigide, avec en arrière-fond une très grande exigence et intellectuelle et physique, hygiénique envers elle-même. Une sorte de cadre très fort, présent pour masquer ou contenir quelque chose. Elle est très seule quand arrive ce que je nommerai l'accident. Lors d'une de ses balades matinales, elle comprend que des gens sont entrés par effraction dans la villa E1027. Ce sont deux jeunes gens, Tessa et Louison, des danseurs. Et Gréco va les rencontrer pour de vrai. Et de leur rencontre naîtra ce que je nommerai alors la vie, voire l'amour, avec un grand V et un grand A. Et je vous la dirai bien comme ça, moi, cette rencontre. C'était Popov avec ce morceau qui s'intitule Serenity et que j'ai choisi pour sa montée, qui selon moi restitue parfaitement ce qu'il va se passer dans le magnifique roman dont il est question aujourd'hui dans Rock and Page, qui s'appelle Tout un monde lointain, paru chez POL pour la rentrée littéraire et signé par Célia Oudard, que je reçois tout de suite. Célia Oudard, bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation dans Rock and Page. Merci surtout pour ce roman absolument somptueux que vous nous offrez.
Merci.
Alors j'ai senti en refermant le roman et en confrontant le fait que Gréco est un personnage alors que Hélène Gray a elle pour le coup existé, que c'était peut-être la villa E1027 qui avait totalement inspiré ce roman. Dites-nous comment il est né Tout un monde lointain.
Il est né en découvrant l'œuvre et la vie de Gray, en effet, lors de la rétrospective qui lui a été consacrée au Centre Pompidou il y a déjà 4 ans. Et j'ai eu un vrai choc en découvrant tout son parcours, ses premières réalisations, ses lacs, ses aménagements d'appartements, sa galerie. Et il y avait quelques... En fait, c'était des photos, des images fixes tirées d'un film en noir et blanc qui montraient la villa avant sa restauration. Donc ce n'était pas des images très anciennes, mais quand même, c'était juste avant que les travaux ne commencent. Et j'ai d'abord cru que c'était des photos très anciennes, mais j'ai su récemment que non. Mais en tout cas, c'était la villa un petit peu délabrée et proche de l'état probablement dans lequel elle était au moment où elle a été squattée, chose que j'ai découverte après coup.
D'accord.
Et sans trop savoir pourquoi... alors qu'on disposait de photos des années 20 au moment de sa construction où elle était en parfait état, j'ai été davantage touchée par les photos de cette villa abîmée, abandonnée, ce béton craquelé. Il y avait quelque chose d'extrêmement émouvant et qui m'a touchée au cœur au point que je suis partie quelques semaines après à Roquebrune pour essayer tout simplement de la voir, cette maison. Alors elle était donc en travaux, donc je n'ai dans un premier temps fait que tourner autour, enfin je l'ai contournée par le chemin des douaniers et je l'ai vue depuis la plage du bus où le Corbusier est mort. Et c'était comme la confirmation que j'avais quelque chose à vivre avec cet endroit. Je ne savais pas quoi exactement. J'ai d'abord écrit une sorte d'étude qui s'appelle French Riviera, qui est publiée aux éditions P, qui est comme un carnet de croquis, et qui était aussi un test pour moi pour savoir si j'avais envie de passer vraiment du temps, c'est-à-dire au moins un an en général pour écrire un roman, et surtout si elle pouvait accueillir une fiction, si c'était une promesse suffisamment forte pour mon imaginaire et un horizon suffisamment accueillant. Et en effet, oui. Et c'est la première fois que j'écris comme ça pour un lieu en construisant une fiction, en l'habitant totalement par mon imaginaire et en partant à un lieu réel.
Et ça fait quasiment de la villa un personnage. Enfin, je le dis dans ma chronique. Mais... Alors au début de votre roman, absolument tout oppose les trois personnages. On a Gréco d'un côté, et puis Tessa et Louison de l'autre. Et puis ils vont faire l'expérience du vivre ensemble. Et quand on termine la lecture et que l'on possède donc toutes les informations, car vous l'avez construit comme une boucle, ce roman, on comprend justement que la question du vivre ensemble, voire de l'amour avec un grand A, est un axe éminemment fort dans votre récit, que tout tourne autour de lui. Que ça soit de Monte Verita et la communauté des... Voilà, on pourrait aller très vite et dire les véganes naturistes, jusqu'aux frasques de Louison, on peut avoir politiquement une idée sur tout cela, on peut observer que naître dans une communauté n'est pas léger et peut hanter quelqu'un toute sa vie, tout autant que ces êtres-là ensemble sont compatibles, ils peuvent exister, à côté en tout cas.
Oui, c'est une tentative de la part de peut-être trois êtres, en effet, qui sont comme prédisposés, presque à leur insu, peut-être pas les jeunes gens, mais qui sont peut-être dans une démarche plus volontariste. Mais Gréco, c'est vraiment, on peut dire, quelque chose qu'elle a priori plutôt même refoulé et qu'elle a eu le sentiment de se construire contre peut-être cette vie communautaire, naturiste, très
radicale.
Oui, très dénudée, très comme ça. Elle s'est construite plutôt dans quelque chose qui serait plus rigide, qui serait dans l'exaltation de la ligne, d'une beauté plus sophistiquée en tout cas. Et en réalité, c'est comme si quelque chose avait avait été dès son enfance comme en elle virtuellement et finalement comme si elle avait jamais voulu se réapproprier cette pente, cette propension, cette peut-être ce talent pour, en tout cas il y avait comme un programme en elle qu'elle n'a pas voulu vivre et qui ultimement, sauf qu'elle n'est pas à l'article de la mort, mais enfin elle est vieillissante quand même, étrangement, une autre communauté, alors bien plus réduite, c'est plutôt ça peut-être qui est la vraie différence avec l'aventure du Monte Verita, où il y avait du monde, là il y a de l'intimité, mais à trois. Et c'est comme quand même un modèle qu'elle n'avait pas imaginé, pas prévu, pas, et eux non plus, tout à fait. Mais même leur couple, là, tous les deux, est quelque chose qui reste assez énigmatique.
Tout à
on
ne
sait pas s'ils sont amis, quelles sont leurs préférences, comme on dit, etc. Et on voit qu'il y a comme des combinaisons qui se tentent, qui se réinventent. Et voilà, par la grâce d'un été dans un endroit un peu magique qui lui-même est un programme moderniste, une sorte de coup d'envoi d'une modernité très audacieuse à l'époque. Cette maison, elle a été regardée bizarrement par les gens de la région. C'était un geste très fort, très inattendu. C'était elle, la fada. Tout le monde l'appelait l'américaine, parce que forcément, une femme architecte qui fait un truc dément, c'est une américaine, mais bon, elle était irlandaise. Mais voilà, c'était une région avec des pêcheurs, c'était un endroit
tout
très
à
modeste.
Fait.
C'était ahurissant comme dessin, comme geste.
Et d'ailleurs, pour que cette sensualité folle existe entre ces personnages, alors on va le voir, il y a cette maison qui les protège, il y a la langue que vous avez construite, on va y revenir, et puis il y a la nature, qui est prépondérante et qui est partout, et dont vous allez restituer la lumière, la température, etc. etc. Il fallait ça aussi.
Oui, il fallait ça, je dois dire que j'avais des idées reçues sur la Côte d'Azur et en y allant, j'ai compris déjà le mot Côte d'Azur. C'est la première fois que je comprends aussi un peu mieux la peinture, Matisse, tous ces peintres qui sont allés voir cette lumière, voir ces couleurs. C'est vrai qu'il y a une intensité exceptionnelle. Ça paraît idiot de dire ça, mais je n'avais pas réalisé à quel point certains sites comme ça de cette Côte d'Azur, de par la nature, le point de vue sur la mer, la lumière, il y a une qualité, quelque chose d'une intensité de vie, on peut dire, en tout cas, quelque chose qui est prête à accueillir peut-être le bonheur, en tout cas des corps heureux et des moments où les choses ont du goût, voilà. Et un rapport comme ça à la contemplation de la nature qui me semblait prolonger la beauté de la maison. Enfin, en tout cas, il y a une résonance entre une maison qui est très belle et une nature qui est aussi un peu exceptionnelle. Il y a comme un endroit pour une idylle, quoi, pour une Robinsonade un peu exceptionnelle.
C'est ça.
Et je voulais aussi donner à la nature de la place parce que, comment dire, je voulais pas que ce soit un roman, justement, où simplement ce soit la culture qui porte à qui exalte ces êtres, qui vraiment, c'est vraiment partage des références communes, mais je voulais aussi que ce soit dans des choses beaucoup plus
archaïques,
silencieuses, sans référence, communes, et
qui les dépasse en fait.
Oui, c'est ça, c'est ça, exactement.
Et alors, pour servir tout ça, une langue, la vôtre, celle de ce roman, et celle qui nous suit bien au-delà de la lecture, c'est Célia Oudard, ce qui constitue pour moi la marque absolue de réussite d'une œuvre que je qualifierais moi désormais de majeure. De la même manière que vos personnages flirtent ensemble, cette langue-là que vous nous offrez, elle flirte avec la poésie, sans jamais que ça en devienne, avec, comme si vous aviez inventé une langue qui ne retiendrait que les frémissements, la vie, ses accidents, ses syncopes, sa nature, sa lumière. Et ça veut dire ça aussi, être publié chez POL ?
Oh, bah écoutez, ça me touche beaucoup. Et puis, bon, alors moi, c'est difficile pour moi de nommer ça. Je ne sais pas si, en effet, c'est au lecteur de nommer la question de la poésie, ça part dans cette prose. En tout cas, je lis de la poésie, ça me nourrit. Et c'est vrai que chez POL, les poètes sont très présents et leurs textes sont pour moi vraiment la colonne vertébrale, le cœur de cette maison. Mais écoutez, oui, c'est vrai que la question pour moi de la langue est centrale. C'est même le tout un monde lointain, le vrai lointain, c'est celui pour moi de l'écriture, du style, de trouver mon rythme, ma voix, mon allure dans ma prose, c'est vrai que c'est l'aventure qui, par-delà un seul livre, enfin qui est en route depuis près de 10 ans, et c'est ça évidemment moi mon lieu, ma à la fois ma nature et ma construction. Comment dire, c'est mon terrain, quoi. C'est vrai que c'est ça qui m'intéresse quand même ultimement, c'est d'écrire de manière à, en effet, c'est vrai, à accueillir des choses très ténues, mais qui sont justement peut-être comment des choses profondes se manifestent, affleurent comme ça. Je suis très sensible aux effets de surface, la peau, la réflexion, des choses comme ça, de la lumière sur les
Oui, c'est le cas dans la scène inaugurale, c'est incroyable. Enfin, on a l'impression de pouvoir toucher la peau des pieds de l'enfant, en fait, c'est juste fou.
Oui,
en fait.
Écoutez, je ne sais pas, mais j'aime beaucoup, vous voyez, un cinéaste comme Antonioni, comme ça, où voilà, il y a des choses, ça a l'air discret, ça a l'air, mais en fait, c'est très profond, mais ça se joue à fleur de peau, comme ça, dans des effets qui semblent... minime. On peut faire des effets de focale comme ça en littérature sur des détails qui n'en sont pas, et puis aussi se permettre, parce qu'il n'y a pas que les détails, on en parle beaucoup mais c'est vrai qu'il y a la recherche d'un rythme, de l'ellipse, d'avancer, de passer d'un chapitre à l'autre de manière un peu cut comme ça, de suspendre certaines phrases en fin de chapitre. C'est vraiment une recherche presque musicale, hein, à l'échelle de tout un roman, de trouver le rythme juste pour qu'il y ait une tension quand même qui soit maintenue tout au long du roman, mais qui n'empêche pas des moments de contemplation, de suspens. Voilà, c'est un jeu d'équilibre et de... très délicat, hein, c'est des réglages successifs, je ne sais pas si... Voilà, parfois, oui, c'est des choses qui m'intéressent dans les autres livres aussi, et en art, quoi, d'essayer de trouver la plus grande justesse de construction d'un ensemble qui doit tenir, et c'est vrai que P.O.L. est une maison accueillante pour des formes qui... On essaie des choses, voilà, c'est pas juste... comment vous dire, des textes où il y aurait simplement une histoire à raconter, c'est surtout la manière de chacun qui importe, et c'est vrai qu'il y a des voix et des allures, des manières justement très, très formidables, très différentes et très fortes chez P.O.L. C'est ça qui fait la richesse de cette maison et qui fait qu'on ne peut absolument pas la réduire à, comme parfois, ça me surprend toujours, une ligne. Il n'y a pas une ligne chez P.O.L., il y a de multiples lignes, il y a tellement d'allures différentes dans la prose et dans la poésie, c'est même surprenant de tous cohabiter dans cette même grande maison blanche.
c'est ça qui est très très beau chez P.O.L. Vous ne couperez pas à la question Rock and Page, Elia Oudar, quel titre de musique vous choisiriez pour évoquer votre roman sans en parler?
Alors, c'est tout donné d'avance, puisque c'est un concerto de Dutilleux qui s'appelle « Tout un monde lointain », qui fait référence au même poème de Baudelaire que celui auquel je pensais quand j'ai choisi ce titre, c'est-à-dire La Chevelure. Et c'est un concerto que j'ai découvert après coup. J'en ignorais l'existence, et c'est très beau, et c'est un concerto pour violoncelle qui a été créé par Rostropovitch. Et bah, je l'écoute assez régulièrement en ce moment, ça me touche, c'est toujours étrange de trouver des choses voilà, qui
trouvent des échos,
proches, mais qu'on ignorait, dont j'ignorais l'existence.
Très bien. Merci infiniment.
Je vous remercie beaucoup pour votre lecture. Au revoir.
Thank you.
C'était un extrait de Tout un monde lointain, mais cette fois de Dutilleux, choisi par Célia Oudard elle-même, que je viens de recevoir en interview et qu'elle a choisi pour évoquer son roman éponyme paru chez POL. La dernière fois que j'avais autant aimé une langue et sa sensualité, c'était avec Pascal Quignard et sa Villa Amalia, ou avec Jean-Philippe Toussaint et son roman qui s'intitulait La vérité sur Marie. Tout un monde lointain est un roman qui vous offrira un espace infiniment grand sur la vie, l'amour, les interstices ainsi qu'offrent toutes nos différences quand elles savent se rencontrer. Tout un monde lointain est un roman qui sait dire la lumière de l'été, la nature près de la Méditerranée, la beauté de cette nature quand elle frémit à toutes les heures. C'est un enchantement, vraiment. Et enfin, et merci pour cela, Madame Oudard, de la littérature avec un grand L, et c'est pas si souvent que l'on y goûte, pas assez à mon goût. Cette émission touche à sa fin, merci de l'avoir écoutée. Merci à Bruno de Divergence FM qui a réalisé la technique de l'émission. Je vous laisse en compagnie de Soap & Skin qui, elle aussi, dans son genre, sait particulièrement bien dire les épidermes retournés. Prenez bien soin de vous.
Sitting, staring, watching all you leave behind is. There is nothing which has soul.